Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité littéraire avec une tribune comme je les aime, Patricia Martin, de France Inter qui présente désormais tous les vendredis l'excellente Heure Philo, j'espère que vous y êtes fidèles, sur notre chaîne à 20h. J'ai dit le vendredi, oui, avec Olivia de Lamberterie du L. Une nouvelle venue que je suis ravi d'accueillir, Elisabeth Philippe de l'Obs et Arnaud Vivian de Transsujet de Regard, dont je rappelle la sortie de Cantique de la Critique et le bréviaire de la rentrée aux éditions La Fabrique, livre qui se termine par ce joli mot de Jules Renard, que je connaissais, mais que je suis toujours heureux de relire. Quand je pense à tout ce qu'il me reste à lire, je suis heureux. Et ce soir, on est heureux d'avoir lu, j'espère en tout cas, les romans ou récits de Catherine Cusset, Christophe Donner, Édouard Louis, Justine Lévy, Mathieu Palin, dans le courrier de la semaine. Eh bien, Nicolas, c'est un débat assez partagé sur Maria Pourchet, son feu. Nicolas Lecourt, qui habite Shanghai, nous écrit « Merci pour votre unanimité à conseiller feu de Maria Pourchet ». C'est chez Fayard, dont je me suis saisi à Roissy avant de m'envoler pour Shanghai. Pas su ni voulu interrompre la lecture de ce brûlot sur papier de verre, haletant, cruel, cuisant, on devrait déprimer, on jubile. À l'opposé, Caroline a détesté feu. Si le style est éblouissant au début, il finit par asphyxier. Je me suis surtout révolté contre ces deux personnages enfermés dans des systèmes qu'ils ont eux-mêmes choisis alors qu'il leur suffisait d'avoir le courage de faire un pas de côté pour sortir de leur vision étroite du monde. Pour Laurent Beria, Maria Pourchet force le trait. Résultat, un roman boursouflé, ça je trouve pas du tout. Un gros pop-corn amer qui se dégonfle assez vite. Philippe Portet de Marseille a trouvé pour sa part dans Feu une petite musique cynique, arrogante, germanopratine.
Pas du tout.
Qui finit, non, pas d'accord, hein, qui finit par alourdir le plaisir de lire. Voilà, à propos de Premier sang d'Amélie Nothomb, Catherine Conté s'étonne que l'épigraphe du livre, dont je rappelle les mots « Mon père est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit », soit attribué par elle et par l'éditeur à Sacha Guitry, alors que cette phrase, ça vous le saviez ici bien sûr, très connue, est d'Alexandre Dumas fils. Et ce n'est pas sérieux, nous dit Catherine Contet. Françoise Détève, elle ne décolère pas. Quel concert d'éloges au masque pour Amélie Nothomb et quelle déception. Le gros problème, c'est qu'Amélie Nothomb parle agréablement avec naturel, gentillesse, un zeste d'afféterie et qu'elle écrit comme elle parle. Enfin, Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon remercie, elle, son cher masque d'avoir unanimement remis Christine Angot à la place qu'elle mérite. Celle d'une grande écrivaine, Le Voyage dans l'Est n'est pas un énième livre sur l'inceste, c'est le livre qui embrasse tout. La lutte de classe sociale, l'ascendance sociale et parentale, la reconnaissance d'un père, d'un frère, je lui décerne le Goncourt. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était toujours sur la liste du prix Goncourt, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais il y a encore Christine Angot. Voilà pour le courrier, et on commence avec « Changer de point méthode ». C'est au seuil le titre lapidaire du récit et déjà gros succès de librairie d'Édouard Louis, l'auteur de En finir avec Eddie Bellegueule et de Qui a tué mon père. À partir de cette question, comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé, par quels moyens ? Édouard Louis raconte ses métamorphoses successives de transfuge de glace, le garçon défavorisé d'un village picard, le lycéen d'Amiens, ses débuts balzaciens à Paris, jusqu'à l'écrivain à succès d'aujourd'hui. Un livre qui d'ailleurs augmenté de petites photos en noir et blanc, personnelles, très personnelles, dans lequel il paie sa dette à celles et ceux qui l'ont aidé, de son amie d'autrefois, Elena, qui l'a initié à tout, à la musique, à la littérature, et qui d'ailleurs occupe une grande part du livre, jusqu'au philosophe Didier Héribon, l'auteur de Retour à Reims, dont il écrit vraiment comme on parlerait d'un maître, j'absorbais la plus anecdotique de ses phrases, le moindre de ses mouvements. Et dans l'épilogue, où il dit avoir d'ailleurs parcouru la planète avec ses livres, gagné beaucoup d'argent, acheté même un appartement à Paris, il a soudain ce mot absolument surprenant, quand on sait ce qu'il a écrit auparavant, j'écris parce que je crois que je voudrais retourner en arrière, Je ne suis pas nostalgique de la pauvreté, mais des odeurs et des images. Olivia ?
Ah bah oui, ces pages-là, elles sont absolument sublimes. Elles sont presque modianesques, avec la volonté de retourner en arrière pour vivre de manière vivable ce qui ne l'était pas.
Oui, parce que l'arrière, si j'ose dire, ou l'autrefois, il l'a quand même beaucoup dénoncé dans ses livres.
Bien sûr, mais c'est ça qui est très différent. Et je trouve que l'ironie du titre est trompeuse, comme s'il se moquait des manuels de développement personnel. Parce que je trouve que c'est un livre qui, s'il est habité par la violence de ce qu'il a vécu, est très tendre et très triste et très mélancolique. Et que pour moi, c'est la première fois qu'il touche aussi bien à ce qu'est la littérature, puisque il ne se contente pas de raconter sa transformation, et c'est déjà sidérant.
C'est transformation.
Il raconte comment les autres l'ont vécu. Et je trouve que, pour la première fois, il se met à la place des autres, et notamment de ses parents, en se demandant ce que ont pensé et comment ils ont vécu cette transformation. Et pour cela, il fait quelque chose de modianesque, comme tu le disais, plusieurs fois au travers du livre, c'est qu'il fait surgir des images qu'il avait enfouies parce qu'il était tout occupé à la volonté de faire rendre gorge et de se construire contre. Et tout d'un coup, quand il raconte comment sa mère, par exemple, elle lui demandait des photocopies de ses bulletins scolaires et qu'elle allait les montrer dans le village aux femmes qu'il avait humiliées, à l'épicière qu'elle pouvait pas payer, par exemple, je trouve que tout d'un coup, moi, je n'ai plus de mots tellement je trouve que c'est bouleversant. Comment il raconte à sa mère qu'il a changé de nom et sa mère se moque de lui, elle est ironique, elle lui dit « Ah, monsieur Édouard, et maintenant quelqu'un de noble ». Mais il se dit « Mais peut-être qu'elle était affreusement blessée parce que ce nom qu'elle avait choisi, je l'avais changé ». Et puis, il y a des scènes sur ce que c'est que de transformer physiquement. Le truc le plus beau, c'est peut-être chez le dentiste, chez la dentiste. Parce que tout d'un coup, il peut plus mentir. Il peut plus endosser un des rôles qu'il a choisi. Et elle, je trouve, moi, j'ai une bouffée de haine contre elle, où il ouvre la bouche et elle dit « Ah bah c'est pas joli, joli, hein, un truc comme ça, horrible !» Et là, tout d'un coup, il essaye de faire une plaisanterie et il a honte lui-même de sa plaisanterie. Moi, je trouve que ce livre est vraiment renversant et il va avoir 29 ans, il est tellement jeune.
Arnaud, qui n'a pas toujours été tendre pour les livres d'Edouard Louis à cette tribune.
C'est vrai qu'il y a de toute évidence un côté picard chez Edouard Louis, mais au sens surgelé du terme. Quoi. C'est-à-dire que, nouvelle fois, donc il nous raconte son enfance. Alors c'est intéressant la manière dont il le fait, parce que, par exemple, à un moment, il y a une note en bas de page pour dire « Oui, je sais, je n'ai pas dit la même chose dans pour en finir avec Eddie Bellegueule, donc son premier livre. » Mais il dit « Mais c'est une autre face de la vérité. » Je pense que s'il continue, Edouard Louis, bientôt, sa vérité, elle aura au moins 6 faces et ça fera un cube. Hein. Je crois qu'on est bien parti pour. Il y a des expressions étranges, d'ailleurs, qui disent cela. Hein. À un moment, il raconte quelque chose, il dit « C'est arrivé presque par hasard. » Je ne sais pas comment les choses peuvent arriver presque par hasard. Soit elles arrivent par hasard, ou alors elles n'arrivent pas par hasard. Ou alors il dit « C'était presque une coïncidence. » À chaque fois, il y a quelque chose de trouble, d'un peu filou. Mais en même temps, finalement, c'est ce qui finit par me plaire. C'est le côté filou, je trouve, d'Edouard Louis. Cette manière de raconter sans cesse la même chose en changeant de version à chaque fois.
Il n'avait pas encore raconté sa réussite, si j'ose dire.
Non, il n'avait pas encore raconté sa réussite. Enfin là, on le prend encore une fois au début, hein, dans son village. Mais en fait, ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre, est-ce qu'il n'avait pas, évidemment, il en avait parlé dans le premier, mais c'est quand même là la manière dont il parle de l'homosexualité. À un moment, il dit, en faisant l'amour avec un homme, je rejetais toutes les valeurs de mon milieu, je devenais un bourgeois. Alors ça, je trouve que c'est une vision de l'homosexualité tout à fait étonnante. C'est-à-dire que l'homosexualité devient sous sa plume une valeur bourgeoise.
Non, ça fait partie du cheminement, c'est le point de départ. C'est parce qu'il était homosexuel qu'il était un paria, qui n'était pas du tout des leurs, hein, de tous ceux qui l'entouraient. Encore une fois, il a vécu.
Encore une fois, la phrase que j'ai citée, elle est très claire.
Oui, c'est un raccourci. Non, mais c'est très clair, mais tu l'interprètes comme tu veux. Non.
Mais Patricia a raison.
C'est pas ça qu'il veut dire. Je t'assure que tu fais fausse.
Bah, c'est ce qu'il écrit. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais moi, je lis ce qu'il écrit.
Il veut dire que c'est parce qu'il était mis.
Non, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est pas du tout attention, ce n'est pas un procès d'intention que je lui fais là, c'est que c'est une vision de l'homosexualité qui est tout à fait, comment dire, presque neuve. Personne n'avait osé parler de l'homosexualité comme une valeur bourgeoise.
Elisabeth.
Oui, alors bon, je ne vais pas rebondir sur cette question de l'homosexualité comme valeur bourgeoise, mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans ce livre, c'est que je l'ai lu comme... comme on parle d'un repentir en peinture, c'est-à-dire ces peintres qui reviennent sur un tableau et qui vont revenir sur une partie du tableau pour le modifier ou cacher quelque chose qui leur plaît pas. Et c'est vrai qu'il y a des redondances dans ce livre avec ce qu'on a lu déjà d'Edouard Louis, notamment pour en finir avec Eddie Bellegueule. Mais c'est comme si, en fait, il avait d'abord dû régler ses comptes avec son milieu pour ensuite pouvoir venger sa race, pour reprendre l'expression de Dany Ernault. Et en fait, c'est ce qu'il fait depuis plusieurs livres.
Oui, parce que son livre sur sa mère, sur son père, c'était des livres presque de réhabilitation.
Exactement.
Et y compris d'auto-accusation, parce qu'il les avait maltraités.
Oui, et là, on est encore dans ce processus-là, puisqu'il avoue ses fautes, ses trahisons. Il dit comment il a trahi justement cette amie Elena qui doit tant, puisqu'il a quand même vécu chez elle, il a été pris en charge par ses parents, et il y a des scènes assez...
Il a refusé d'ailleurs de lui donner sa photo, puisqu'il y a beaucoup de photos dans le livre.
Ça. Oui, alors ça, je suis moins convaincue par la présence des photos qui font un peu avant-après. Il y a des photos de lui quand il était effectivement dans son milieu.
C'est parlant, le avant-après.
Oui, c'est parlant, mais d'ailleurs, il avait voulu en mettre dans son premier livre des photos, et puis finalement, il avait renoncé. Et moi, je suis pas sûre que ça apporte grand-chose à ce livre aussi, mais ce qu'il appelle son odyssée de transfuge, je trouve que c'est très intéressant, et ça passe, la façon dont ça passe par le corps, c'est cette transformation qui va passer par les dents, il va aussi se faire faire quelque chose à ses cheveux, changer l'implantation de ses cheveux, et c'est comment il change de corps pour intégrer un nouveau corps social, et ça, c'est absolument passionnant, et voilà. Et puis il explique comment il a dû trahir Elena, trahir sa famille. Et je trouve que ça donne un livre.
Il n'a pas trahi Didier Ribon.
Il n'a pas trahi Didier Ribon. Alors ça, c'est parfois peut-être un peu emphatique. C'est pas non plus ce que je préfère. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il se livre peut-être comme il ne s'est jamais livré, alors même qu'il ne fait qu'écrire sur lui-même. Et il raconte notamment comment il s'est prostitué à un moment. Et je pense pas que ce soit l'aveu le plus difficile qu'il ait eu à faire, parce qu'à un moment, il explique que en fait, il a jamais rêvé réellement de devenir écrivain. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de devenir célèbre. Et ça, je pense que pour un écrivain, c'est un des aveux les plus durs à faire. Et paradoxalement, c'est peut-être avec ce livre qu'il est le plus écrivain. Il y a notamment un passage où il raconte un peu son dédoublement. Et il écrit à la troisième personne et c'est presque durassien. Et là, je trouve qu'il est plus littéraire qu'il l'a jamais été.
Et en même temps, quand il raconte pourquoi il veut devenir célèbre, c'est parce que chez lui, il passait son temps à regarder la télévision 10 heures par jour, justement, et à rêver devant des gens qui, pour des mauvaises raisons, mais étaient célèbres.
Et qu'à un moment donné, d'ailleurs, son père, sachant qu'il passe à la télévision, c'était pour un débat politique ou je ne sais plus quoi, n'étant pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, et qui avait invité ses copains,
c'est
etc.
Horrible,
et il éteint la télé en disant « ça suffit maintenant assez de ces... »
Patricia, tu pourrais presque l'inviter à leur philo.
Pourquoi pas. Je trouve que ce qui est très fort chez lui, je sais si par moment certains de ses livres m'ont un petit peu énervé à dire vrai, mais je trouve que là, il reprend, mais il ne répète pas, justement. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'il a pris du recul, de la hauteur. Il a probablement mûri. Tu disais, il n'a pas 30 ans, mais c'est vrai que il est quand même, il n'est plus le tout petit qu'il était. Et c'est implacable, je trouve, sur le plan social, ce qu'il raconte. Alors là, on sent aussi le disciple de Bourdieu. Mais le mépris de classe, dont on ne se rend même pas compte parce qu'il est partout, qu'il est implicite. Les photos, je le disais, sont tout à fait édifiantes. Le avant et après Elena, ça n'est plus le même homme, mais d'un pauvre, c'est un non-pauvre, je ne sais pas comment il veut dire. Il n'est pas riche, mais enfin, c'est un bourgeois, comme tu disais, Arnaud.
Et, oui, il le dit.
Et cette double nature, c'est en fait absolument presque impossible à tenir. C'est-à-dire que quand il marche, il doit faire attention. Quand il sourit, il doit faire attention. Quand il mange, il doit faire attention. Quand il tient ses couverts, il doit faire attention. Chez les bourgeois, on dîne, des jeunes où on dîne. Chez les pauvres, on mange. Chez les pauvres, il est 7h du soir. Chez les bourgeois, il sera 19h. Il y a vraiment des stigmates de la pauvreté qui met en lumière d'une manière incroyable. Et je trouve qu'effectivement, on voit bien que c'est difficile pour lui. Oui, j'arrête là parce que je vois que tu fais des signes. Mais de ne pas se trahir tout en étant un autre lui-même. Et il n'élude rien, il n'élude pas, et c'est ça qui est bien aussi, il n'élude pas ses faiblesses, ses errances, notamment tout ce qui était lié au succès, qui sont peut-être un peu des scories de sa vie. En tout cas, je le lui souhaite, parce que ça lui fera prendre un chemin plus juste.
Changer de point, méthode, c'est Édouard Louis, et c'est au seuil. La France Goy, un petit roman de 512 pages, vous l'avez lu, hein?
Oui.
Complètement les uns et les autres, de Christophe Denner chez Grasset, parce qu'il a retrouvé des lettres de son arrière-grand-père Henri Gosset, qui était un psychokinésithérapeute, qui était l'ami de Léon Daudet, lequel était l'ami d'Édouard Drumont. Christophe Danner s'est donc lancé dans une aventure absolument folle, racontée de 1880 à 1914, la montée de l'antisémitisme en France à travers, il faut dire, ses pires théoriciens. Édouard Drumont, l'auteur de La France juive, pamphlet et best-seller de 1886, qui était aussi le directeur du journal La Sensation, La Libre Parole. Et Léon Daudet, fils royaliste de l'auteur des Lettres de Montmoulin, frère d'armes de Drumont, dans sa croisade pour, je cite exactement les mots, ça fait quand même frémir aujourd'hui, pour la France aux Français. Le roman qui s'ouvre, je dois avouer que c'est le seul moment un peu drôle vraiment du livre, par la balle de carabine tirée, tenez-vous bien, par le petit Macron de 12 ans. Sur son camarade Henri Gosset. C'était vraiment un Macron, hein. Ce livre, donc, brasse l'affaire Dreyfus, le scandale de Panama, les assassinats de Sadi Carnot et de Jean Jaurès, le meurtre du directeur du Figaro par la maîtresse du ministre Joseph Caillaux, l'exécution de l'anarchiste Ravachol, les exactions de la bande à Bonneau, j'en oublie. Quand on pense d'ailleurs qu'on a parlé de cette période comme celle de la Belle Époque, ça fait un peu sourire, évidemment. Moi, je l'ai lu de A à Z, franchement. Il y a un nombre d'histoires, de sous-histoires absolument incroyables. J'ai adoré celle de la compagnie suisse des bouillons Cube Maggie, que nos deux Drumont et Daudet accusaient d'être tantôt une entreprise juive, tantôt un sous-marin allemand venu corrompre la France. Enfin, il y a plein d'histoires, c'est fabuleux. Vous allez essayer en quelques minutes, bien sûr, comme d'habitude au masque et la plume, de me dire ce que vous en pensez, Patricia.
Ce livre fascinant.
Fascinant et repoussant.
Et repoussant, mais l'histoire est diabolique, mais ça prouve qu'on fait de bons livres avec des gens très méchants. Et c'est un livre un peu fou parce que le récit est fou dans les salons, par exemple, ce qui se passe dans les salons. Il n'y a pas qu'avec le petit Macron. Moi, j'ai ri parce qu'évidemment, tu ris jaune, mais tu ris quand même. C'est-à-dire, quand on parle, ils sont là. Alors Zola, on imagine Zola écarquillant des yeux comme ça. Quand il parle des portes occultes, il parle les uns et les autres, hein, de la juiverie. Quand un des Edmond Goncourt dit que si la famille Rothschild n'est pas habillée en jaune très prochainement, ben, nous serons tous des chrétiens bientôt domestiqués. Ça rappelle un petit peu des discours qui, bien que le contexte n'est pas le même,
mais tout le temps dans le livre, on pense à aujourd'hui. Enfin,
absolument. Et ces gens-là sont tout le temps. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit de près à quel point ces gens-là sont en transgression permanente, sans complexe. Et moi, ce qui m'a alors mais vraiment plu beaucoup, beaucoup, c'est cette histoire d'amour absolument fascinante entre cet arrière-grand-père, je suis sûre que
Henri Gosset.
Voilà, il a commencé par la masser, ça, Marcel. Apparemment, il massait bien parce qu'ils ne sont pas arrêtés là. Et ça a été une histoire charnelle en diable, alors qu'elle était anarchiste. Ouais.
Mais c'est pas l'essentiel du livre non plus, hein.
Non, mais c'est tu peux pas parler de. Enfin, mais... voilà, c'est bourré de petites histoires comme ça.
C'est pas l'essentiel du livre, mais ce qui est formidable, je trouve, dans ce livre, c'est justement sa capacité à être écrit comme un roman feuilleton.
Absolument.
C'est ça qui est formidable. Les chapitres sont très courts.
Je dirais même comme une série.
Oui, comme une série. Les chapitres sont très courts. Il y a peut-être un léger essoufflement dans les 100 dernières pages, mais ça se comprend. Hein. Je veux dire, c'est
vers la fin, on découvre ce que je ne savais même pas, qu'Edouard Drumont a été quand même député d'Alger.
Oui,
il a été élu député d'Alger à la fin du livre.
Voilà. Être député.
Oui, donc le rythme effréné sur 400 pages, vraiment, vraiment effréné, avec parce qu'on parle de beaucoup de Drumont et Daudet, mais tout le pendant anarchiste est vraiment avec la figure d'Almereda, du libertaire, mais qui est formidable, je dirais, qui est raconté de manière formidable. Il se trouve que les lettres de l'arrière-grand-père sont un véritable trésor, c'est-à-dire que le type, c'est un véritable écrivain. Hein, je ne sais pas, c'est qu'il se donnait a réécrit son arrière-grand-père, mais en tout cas, ce qu'on lit de lui, c'est formidable, la manière dont il raconte l'époque, dont il raconte Léon Daudet, c'est formidable. Et puis évidemment, le livre est d'une actualité brûlante. Si on veut comprendre ce qu'est un polémiste, et visiblement c'est un thème relativement à la mode, si j'ai bien compris en ce moment, si on veut comprendre, là on en a deux qui sont féroces, Drumont et Daudet, et comment ne pas penser au livre que Gérard Noiriel, l'historien, avait publié il y a 2 ou 3 ans à la découverte.
Le venin dans la plume.
Voilà, le venin dans la plume, où il comparait les trajectoires de Drumont et d'un certain polémiste dont on parle beaucoup en ce moment en France. Donc, si vous voulez, là, ce livre tombe à pic, il est formidable. On comprend les historiens. Laurent Joly, par exemple, qui est vraiment un grand historien, a dit tout le bien qu'il pensait de ce livre d'un point de vue historique. On comprend, et effectivement, à un moment, ce que montre très bien Christophe Donner, c'est comment, dans la prose journalistique, hein, c'est ça dont
on parle, le mot juif finit par être remplacé par le mot boche. Comment, vraiment, à l'approche de la Première Guerre mondiale, il y a un changement. Et donc, on voit que c'est aussi du pur signifiant. C'est ça qui est terrible. C'est ça le plus terrible dans cette affaire.
Elisabeth.
Oui, je suis un peu plus partagée que vous. C'est vrai que ça démarre à toute vitesse, on est complètement emporté. Il y a ce côté roman feuilleton, même roman balzacien, avec Drummond en espèce de Rastignac antisémite. Et puis, il y a des duels, il y a des attentats.
Il y a beaucoup de duels.
Oui, alors en plus, ça nous fait relativiser quand nous on dit qu'on vit une époque violente. Quand on lit ça, on se dit qu'en fait, on est un peu chez les bisounours.
Alors, c'est des duels parfois à fleur et moucheté, parfois pas. Des fois, il triche un peu.
Avec Drummond qui sait absolument pas se battre, qui fait ça comme un cochon, qui fonce avec son épée alors qu'il tient à peine sur ses jambes. Enfin, c'est assez drôle. Donc, et puis il y a énormément de personnages.
On devrait réhabiliter les duels. On devrait revenir aux duels.
Hein
À fleur et moucheté. Hein.
Et il y a plein de personnages ou en couleur. Il y a tous ceux qu'on connaît ou dont on connaît les noms, donc Drummond, Daudet, Goncourt, Zola, mais aussi des personnages secondaires comme le marquis de Morès qui prend fait et cause pour Drummond et qui est le chef des antisémites et qui est à coquiner avec les bouchers de la Villette. Donc ça fait une espèce d'attelage complètement absurde et surréaliste.
Qu'est-ce qui t'a pas plu alors ?
Alors moi je trouve quand même, toi tu disais que tout l'épisode, le développement sur Magie, je sais pas comment on prononce, c'était intéressant. Alors moi, j'ai un peu pris le bouillon là, à ce moment-là, je trouvais que c'est ça.
C'est les 100 dernières pages dont...
Oui, voilà, je trouve que là, ça retombe un petit peu. Et ce qui me gêne aussi, c'est qu'à un moment, il a cette phrase, Christophe Donner, il dit « Finalement, le roman de l'antisémitisme n'est rien d'autre qu'une saga familiale. » Et c'est peut-être quand même un peu plus que ça. Et moi, je trouve que son point de vue se dilue. Il fait preuve d'une ironie assez cruelle, caustique tout au long du livre. Finalement, quel est son point de vue sur cette histoire ? Ça, moi, j'arrive pas vraiment à le voir. Et je trouve que ça se dilue dans la surcharge d'un...
C'est celui d'un roman feuilletoniste.
Oui, mais il donne tellement d'informations, c'est comme s'il avait été à un moment rattrapé par sa matière. Moi, je trouve qu'il y a cet effet un peu d'étouffement qui arrive, mais je nie pas du tout toutes les qualités que vous avez soulevées, mais je trouve qu'à un moment, il y a un trop-plein.
Là où je te rejoins, c'est qu'il y a un moment où on se demande la vieille question des années 70, là, d'où tu parles. Ouais. Et Christophe Donner, d'où tu parles. Mais vraiment, oui, c'est vrai.
Olivia.
Moi, j'y allais à reculons, hein. Autant vous dire que je faisais un refus d'obstacle pendant très longtemps.
À cause du poids du livre.
À cause du poids, à cause du sujet, à cause de... Oui. Et moi, mes enfants, ils ont une phrase tout le temps, ils disent « je suis choquée ». Les jeunes, ils disent ça aujourd'hui, « je suis choquée ». Alors, moi, voilà. Moi, je peux dire que j'ai été...
On disait aussi autrefois. Hein,
ah oui, choquée. Mais là, tu sais, ça sert à tout maintenant. Mais toi, ils sont trop grands, tes enfants. moi, je trouvais vraiment que c'était un livre choquant dans ce qu'il raconte, c'est quand même un livre sur des monstres. C'est un livre épouvantable. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai marché, c'est que comment est-ce que de cette matière totalement historique, il arrive à faire un roman moderne ? Moi, je trouve pas que ça soit balzacien ou... Parce qu'il le raconte au présent.
C'est ce que disait Arnaud aussi, oui, c'est qu'il y a tellement de phrases qui nous rappellent ce qu'on est en train d'entendre.
Oui, mais il y a aussi quelque chose, une modernité dans la manière de raconter ce livre entièrement au présent, et je trouve que ça change absolument tout.
Le côté série.
Oui, peut-être, mais bon, moi, je suis pas forte en série. Moi, je trouve pas que ça ressemble à une série, en fait.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que dès le moment où on entre dedans, moi, je défie quiconque de l'arrêter.
Oui.
On est pris quand même.
Parce que tout d'un coup, c'est vrai que au moment où vraiment je trouvais ça dégoûtant, tout d'un coup, il y a la scène du mariage de Drummond qui est extraordinaire, où il se marie, il y a pas d'invité, il y a juste les quatre témoins, et là, le curé dit, on attend la mariée. Et en fait, la mariée est là, mais elle est tellement laide et mal fagotée. Et
lui est très laid aussi.
Voilà, que personne n'a pu imaginer que c'était la mariée. Alors là, il y a le mariage qui dure 2 minutes. Et juste après, Drummond, là, qui se réalise, qui vit depuis 10 ans avec une mocheté, renvoie sa femme et va même pas dîner avec elle pour le soir de la noce. Hein, ce qui montre quand même le monstruosité de l'homme.
Je te rassure, il est mort ruiné et oublié en 1917.
Oui, puis après,
1917.
Elle meurt, elle a la bonne idée de mourir au moment où il va sortir son livre. Il essaye de se remarier, il n'arrive pas. Après, ce que je trouve fascinant, et ce qui m'a fait penser aussi beaucoup à l'époque, c'est la fabrication du best-seller qu'est La France juive, qui est refusée par Flammarion.
Qui est refusée par un éditeur, publié par un autre.
Exactement, avec l'aide de Daudet.
Voilà.
Et puis comment on le lance avec Kathleen dans Le Figaro. Tout ça est fascinant. Et en même temps, le polémiste dont tu parlais n'arrête pas d'essayer de faire croire aux chalands que c'était mieux avant. Je trouve que... Ce livre est la meilleure réponse.
Enfin, cela dit, vous parlez du paria Drummond, mais il y a encore un prix, Édouard Drummond, il y a encore des... Il n'est pas passé complètement aux oubliettes. Hein. Ouais. Et il est la référence pour certains intellectuels d'aujourd'hui. La France Goy, que personnellement je vous conseille de lire, c'est signé Christophe Denner et c'est chez Grasset. Allez, on va aller un peu plus vite. Son fils, un livre de Justine Lévy chez Stock, et c'est à la première personne, le journal intime, imaginaire bien sûr, de Phrasie Artaud. Elle était née à Smyrne, la mère d'Antonin Artaud, l'auteur, vous le savez, du théâtre et son double, et de Van Gogh, le suicidé de la société, qui a passé ses dernières années de sa vie dans les hôpitaux psychiatriques, notamment celui de Rodez. Et lui, il est mort, Artaud, en 1948, il avait 51 ans. Bref, ce journal de Phrasie commence en 1920 à Marseille, quand Antonin prend le train pour Paris, et se termine donc en 48 avec ces mots de sa mère: « Je ne sais plus qui je suis, peut-être que je suis morte, je ne sais pas ». Entre ces deux dates, Euphrasie, qui est convaincue du génie littéraire de son fils, s'inquiète de son état mental, tout ça sous la plume, encore une fois, imaginée par Justine Lévy. Hein. Elle vitupère les femmes qu'il rencontre, les intellectuels qu'il adule. Elle sait qu'il a été traumatisé de voir sa sœur de 7 mois étranglée par la bonne. Elle le cherche dans Paris quand elle n'a plus de nouvelles de lui. Lorsqu'elle l'aperçoit, elle a l'impression de voir un clochard. Et surtout, sous la plume toujours de Justine Lévy, elle préfère le savoir interné que livré à ses démons. C'est donc parfaitement, au sens propre, un exercice de style. Et la question que je vous pose, c'est: est-ce qu'il vous a convaincu, Elisabeth ?
Eh ben, pas tellement. Donc Artaud avait écrit L'ombilique et les limbes. Là, c'est vraiment le cordon ombilical et les limbes. Elle montre comment la folie du fils est aussi présente chez la mère, puisque c'est vraiment le récit d'un amour fou, la façon dont elle se dévoue. C'est un amour sacrificiel qu'elle porte à son fils. Mais je trouve que c'est totalement anecdotique. J'ai l'impression, en fait, d'une fiche Wikipédia distillée dans les entrées.
Des phrases, d'ailleurs. Hein,
oui. Alors, bon, évidemment, quand on s'attaque à la figure d'Artaud, que ce soit par le biais de sa mère, c'est tout de suite un défi très difficile à relever. Mais là, stylistiquement, je trouve ça extrêmement plat. Et ce que je trouve d'autant plus difficile, c'est que Antonin Artaud, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à échapper à l'état civil. Et là, je trouve que le livre de Justine Lévy réduit justement la figure complètement folle, à tout point de vue, d'Antonin Artaud, à des anecdotes, une série d'anecdotes, et notamment les plus connues, donc son internement à Rodez, c'est sa présence dans les films d'Abel Gance, son voyage au Mexique. Donc on a tout ça distillé de façon un petit peu maladroite par des formules « quelqu'un m'a dit que »,« on m'a dit que ». Et finalement, je reste c'était vraiment sur ma faim. Je pensais qu'à un moment, ce procédé de journal allait évoluer vers une autre forme, vers quelque chose de différent. Et là, je suis vraiment restée sur ma faim.
Livre bref, d'ailleurs. Arnaud.
Au-delà du bien et du mal, j'ai l'impression surtout que c'est un livre pour personne, si je puis dire, parce que ceux qui ne connaissent pas Artaud vont avoir du mal, parce que tout est un peu téléphoné, rien n'est contextualisé par le choix de ce journal intime imaginaire, donc de la mère d'Artaud. Donc il y a des noms, par exemple, qui apparaissent: Jean-Paul Henri Thomas, Robert Anaïs Nin,
etc. Oui, mais bon, tu voulais quoi, qu'elle mette des astérisques?
Non, mais je veux dire, si quelqu'un qui ne connaît pas Artaud
Ce qu'il écrit.
Et ceux qui connaissent Artaud vont être forcément un peu offusqués. Je donne qu'un seul exemple. Elle reproduit la fameuse lettre à Adolf Hitler d'Antonin Artaud. Et là encore, cette lettre mythique a été vendue en 2017 aux enchères à Drouot. On voit qu'elle fait partie d'un lot qu'on appelle les lettres sorts chez Artaud. C'est que, à un moment, de sa folie, et non pas de sa démence, mais de sa folie, ça n'a rien à voir, de sa folie, il écrivait des lettres sorties, des lettres sorts, on les appelle, qu'il brûlait ensuite à la cigarette. Et on voit très bien que cette lettre a été brûlée. Et par ailleurs, Justine Lévy l'a reproduit sans son post-scriptum, qui est très important parce qu'on y voit l'ironie d'Antonin Artaud.
C'était quoi le post-scriptum?
Tous ceux qui connaissent.
C'est quoi le post-scriptum?
Ah ben, je vais vous le lire. Il dit, le post-scriptum, donc c'est cette lettre à Adolf Hitler, il dit: bien entendu, cher monsieur, ceci est à peine une invitation, c'est surtout un avertissement. Donc vous voyez, cette phrase-là, qui laisse comprendre l'ironie du fond de sa folie d'Antonin Artaud, elle n'est pas présente. Donc comment voulez-vous que les gens qui aiment Artaud puissent prendre ce livre au sérieux? Ce n'est pas possible.
Olivia.
Mais parce que ce n'est pas une biographie d'Artaud. Moi, je trouve que ce qui est très juste dans ce livre, c'est la forme. C'est un journal imaginaire. Ce n'est ni un roman historique, ni une biographie imaginée comme on fait aujourd'hui, et qui est un genre un peu compliqué, où on ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Là, c'est une œuvre de fiction. Et je trouve que ce n'est pas anecdotique, mais que c'est un livre qui est beau parce qu'il est humble. Parce qu'en fait, elle n'épuise pas son sujet. C'est un livre qui, au-delà d'Antonin Artaud, moi je trouve, parle de ce que c'est que la maternité, en posant des questions auquel parfois...
C'est une maternité un peu particulière.
Mais bien sûr, mais c'est une maternité qui pose toutes les questions qui sont qu'est-ce que tu fais quand tu es la mère d'un enfant malade? Quelle est ta responsabilité? Quelle est ta culpabilité? Je trouve que c'est un grand livre sur la culpabilité. Et dès qu'on met un enfant au monde, bah oui, on est coupable, c'est judéo-chrétien.
Oui, mais même là, je trouve que c'est limite, parce que même si elle s'en défend à un moment, la mère dit oui, on va encore dire que c'est la faute de la mère, etc., si l'enfant est fou. Bah, le livre prouve pas vraiment autre chose, finalement.
Ah bah si, parce qu'il pose quelques hypothèses sur effectivement la consanguinité dans cette famille. Mais justement, je trouve que ce qui est beau, c'est de ne jamais donner des réponses définitives. Est-ce qu'il faut faire confiance à des médecins pour soigner son enfant? Est-ce qu'il faut soigner la folie ou est-ce qu'il faut pas la soigner parce que son fils est génial et qu'elle en a l'intuition? Et je trouve qu'elle arrive justement à dépeindre quelques scènes bouleversantes, notamment les scènes qui, au-delà d'Antonin Artaud, sont celles des aliénés, ces gens que personne ne veut voir dans les asiles, et la manière qu'elle a de raconter les odeurs, les bruits, je trouve que ça c'est vraiment très très réussi.
Mais non, c'est très peu de pages dans le livre.
Non, mais moi je trouve que c'est un livre qui m'a semblé juste dans sa langue. Voilà, je trouve qu'elle a, je ne sais pas si cette femme elle parlait comme ça, mais je trouve que comme quand on entend une musique, tout m'a semblé juste, tout m'a semblé magnifique, et je dois dire souvent très très bouleversant.
Patricia,
je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Olivia a dit. Je trouve que ça procède peut-être parfois par ellipse, mais sûrement pas par approximation. Je trouve que cette euphrasie, c'est l'anti-Louise Claudel, qui, elle, a fait enfermer sa fille sans beaucoup de scrupules. Alors, évidemment, c'est une mère excessive, c'est une mère animale, jalouse, et là-dessus, on peut s'interroger, effectivement, sur qu'est-ce que c'est qu'être mère. Mais c'est aussi une femme qui a été jetée en pâture, parce que effectivement, on a fait rejaillir la faute sur elle, comme ça a été beaucoup, par exemple, pour les autistes. C'était la faute de qui? C'était la faute de la mère, si le gosse était autiste. En creux, il y a effectivement l'abominable sort qui est réservé aux aliénés. Les séances d'électrochoc, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Ce sont des petits comas, et en fait, il souffre tellement, son corps se cabre à ce point qu'il se casse des côtes à un moment donné. Et il en a tous les deux jours. Et elle est parfaitement impuissante face à ça. Et je trouve le livre aussi, comme tu le disais, Olivia, est très juste, parce qu'elle n'entre jamais dans l'œuvre d'Artaud, parce que en fait, cette mère n'a jamais pu lire son fils. Elle sait que c'est un génie, que c'est un artiste formidable, et c'est très émouvant.
Et qu'elle déteste les intellectuels qu'il aime.
Et qu'elle déteste les... Oui, parce qu'il le lui pique aussi, voilà. Parce qu'encore une fois, là, on revient aussi
et
à la...
Il la condamne.
Et il la condamne, exactement. Ils disent que c'est un homme esselé, dont personne ne s'occupe, etc. Ce qui est faux, parce que quand elle se fait... Y compris, elle se met sur son 31 pour aller le voir, et lui, il l'envoie paître. Et quand il l'appelle pour une fois maman... Elle est aux anges. Non, c'est un très bon...
Avis partagé sur son fils de Justine Lévy, c'est chez Stock. La définition du bonheur, un roman chez Gallimard de Catherine Cusset. Prix des lectrices de Elle, je le rappelle, pour Le problème avec Jane. Et prix Goncourt des lycéens 2008 pour Un brillant avenir. Et là, c'est le portrait de deux femmes françaises, dont on ne comprendra le secret qui les lie vraiment qu'à la... fin du roman, donc il fallait jusqu'au bout. L'une, c'est Clarisse, elle est brune, elle a été marquée très tôt par des drames qui ont fait d'elle une battante à la recherche du bonheur. Et l'autre, c'est Ève, qui est blonde, qui est une intello, elle est agrégée de lettres, reconvertie, on comprendra pourquoi, dans les recettes de cuisine numérique. La première, célibataire, mère de trois garçons, a passé sa jeunesse à bourlinguer sur les routes de l'Asie du Sud-Est. Et la seconde, c'est d'ailleurs un peu comme Catherine Cusset, même beaucoup, expatriée à New York, où elle a fondé une famille avec le fils d'une femme rabbin. Les deux ont plutôt du caractère. Et le roman va courir de 1980 à 2020, c'est-à-dire embrasser, si j'ose dire, les attentats du 11 septembre, et puis jusqu'à la pandémie de Covid, aussi de la chape de silence d'il y a 30-40 ans, au mouvement MeToo d'aujourd'hui, 40 ans pendant lesquels Ève et Clarisse vont voyager, aimer, accoucher, écrire, et puis vieillir, pour finir par se rencontrer. Il y a même presque aux deux tiers du livre un petit moment qui amusera les fans de Jean Echenoz. C'est une conférence qu'il donne à New York. Patricia.
Moi, j'aime beaucoup ce que Cusset écrit, donc c'est très fort, hein, ce portrait de deux femmes, très juste. On est tout le temps entre exaltation et désespoir. La perspective que lui donne le temps, puisque comme tu l'as dit, ça se déroule sur plusieurs années, permet précisément
plusieurs décennies.
Ça permet de confronter un peu ce qu'on pense quand on est très jeune et ce qu'on pense plus tard, quand les portes finalement commencent à se fermer un peu, que les illusions tombent. Qu'est-ce que c'est que la définition du bonheur quand on est très jeune? Ça peut être de rouler très vite, enlacé à son petit copain qui est motard et de rouler dans une nuit de printemps dans une nuit noire. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie? C'est évidemment aussi une question qu'elle se pose. C'est un très beau roman aussi sur l'amour, sur l'abandon, parce que c'est très fort, ça devient une structure, comme le dit à un moment donné un psychologue, l'abandon. C'est la confrontation à la réalité familiale, à la réalité des hommes, à la réalité de sa propre ambition. Il y a des scènes qui sont, elle a quand même un art du récit et de la description, la scène de l'accouchement aux États-Unis,
dans un taxi
qui est un vrai rodéo, avec la belle-mère qui est au milieu de tout ça.
Pourquoi je sens poindre un med dans ta phrase?
Mais ah bon, elle a des très très beaux, il y a des très belles lignes sur la maternité aussi. Il y a plein de choses qui sont très bien vues. Alors je trouve que sur le plan du fond historique, il y a un peu beaucoup de choses. Elle aurait pu élaguer un peu. Et alors moi j'étais déroutée par précisément cet entrelacement des deux histoires et par ce dénouement qui m'a.
On peut pas le raconter. Hein.
Non, il faut surtout pas le raconter, mais. Je vois pas à quoi il sert et je trouve qu'il tombe, à dire vrai, un petit peu à plat. Il
donc
est un
ton,
peu
ton mais, c'est le, si j'ose dire, c'est le, l'épilogue.
C'est enfin, l'épilogue, c'est... mais sinon, non, c'est un très beau roman, il faut le lire.
Olivia.
Oui, moi j'ai un gros mais. J'étais d'abord très désappointée parce que je trouve que Catherine Cusset, elle a quelque chose de très piquant, d'assez radical même, que je ne retrouvais pas. Je trouve que la forme est un tout petit peu banale, que justement cette manière de mettre en parallèle deux femmes que tout oppose, l'une très charnelle, l'autre très dans la retenue, ça m'a pas enthousiasmée. Mais, en fait, après, j'ai été enthousiasmée par autre chose. Pas du tout par le dénouement, on s'en fout complètement.
Oui. Je me demande pourquoi.
Voilà, pourquoi ça? Je trouve que ça marche pas du tout. Mais en fait, bon, j'ai adoré la scène de l'accouchement, mais moi, je comprends pas pourquoi il y a pas plus d'accouchement dans les livres. C'est ce que je préfère dans la littérature.
Il y en a peu dans les taxis, il faut dire.
Il y en a peu dans les taxis, très peu dans les livres par rapport au nom.
J'ai l'impression d'avoir vu cette scène des milliers de fois dans des séries américaines ou dans des films.
Oui, mais dans les romans, il y en a pas beaucoup. Celle, la dernière géniale, c'était dans Camille Laurence. Et moi, j'ai une passion pour les scènes d'accouchement dans les romans. Et là, celle-là, elle est vraiment géniale.
On a beaucoup chez Delphine Coulin dans Loin à l'Est, c'était. Ah. Ouais, beaucoup, beaucoup.
Mais ce que j'ai trouvé finalement fascinant, c'est presque quelque chose de sociologique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a dans ce livre le portrait de la dernière génération de femmes qui n'existeront plus. C'est-à-dire des femmes qui sont coincées entre le MLF et MeToo. Des femmes à qui on a dit « Vous pouvez tout faire, travailler, avoir des enfants, ne pas en avoir, avorter, faire l'amour, ne pas faire l'amour. »
Accoucher dans
tout,
les taxis.
Accoucher dans les taxis. Et qui se sont rendues compte que c'était impossible. Que finalement, tout ce qu'on leur avait dit possible s'est avéré, dans la vie, impossible. Et je trouve que ce livre est en fait très très mélancolique et crépusculaire et qu'il est l'écho même de ce livre que j'ai adoré de Catherine Cusset qui était l'autre qu'on adorait, qui était l'histoire d'un homme qui avait tout et qui se suicidait. Et bien je trouve que finalement c'est la même histoire qu'elle nous raconte. Il y a quelque chose...
Mais sans rien dévoiler, enfin, on peut dire qu'il démarre de manière terrible hein, et très crépusculaire et il se termine de manière quand même plutôt crépusculaire. Hein.
Absolument. Et donc c'est un livre mélancolique et crépusculaire et d'une portée qui, en fait, m'a beaucoup troublée.
Elisabeth et Arnaud, Elisabeth.
Oui, tu parlais de Camille Laurence, Olivia, et de filles. On retrouve effectivement la même idée, c'est-à-dire, en entrelaçant ces deux destins, elle montre, Catherine Cusset, comment la vie d'une femme, en fait, c'est le parcours d'une combattante. Voilà, parce que c'est émaillé de drames, de traumatismes, et ça, c'est assez commun, malheureusement. Mais là où Camille Laurence le faisait avec une subtilité impressionnante, incroyable, et où tout passait par le langage, par l'écriture, là, chez Catherine Cusset, malheureusement, ça ne passe que par un empilement de clichés. Je trouve que la façon dont elle évoque tous ces drames qui vont émailler, jalonner la vie de ces femmes, elle le fait de façon comme s'il y avait des cases à cocher. Donc, je ne vais pas, évidemment, dévoiler quels sont les événements qu'elle traverse, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'elle a fait sa petite liste et qu'elle coche les cases. Il faut qu'elle fasse ça, qu'elle ait ça, qu'elle vive ça. Et en plus, je trouve que l'écriture, tu disais que normalement, enfin, habituellement, Catherine Cusset, elle a ce côté très caustique. Là, on le retrouve absolument pas. Et c'est pour ça que je rebondissais sur la scène de l'accouchement, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont des clichés. Par exemple, quand Clarisse part en Thaïlande, alors il y a ces gens très pauvres, mais ils sont pauvres, mais ils partagent tout. Enfin, c'est des phrases on n'a pas envie de lire ça dans un roman. De la même manière, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché qui me... évidemment, il y a l'adultère à 40 ans, elle fait des macarons, elle aime pas trop quand elle passe devant une mosquée.
Il y a beaucoup de cuisine.
Oui, il y a beaucoup de cuisine.
Son métier, à un moment donné.
Elle passe à vélo devant une mosquée, puis il y a un café devant la mosquée, puis elle aime pas trop parce qu'il y a que des hommes dans le café. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un côté même un peu bourgeois, si tant est que ça puisse être un...
Carrément.
Voilà. Et moi, ça m'a absolument pas convaincu.
Arnaud.
Goudel, j'ai l'histoire de deux femmes, après Elena Ferrante, après même Claudie Gallet, dont nous avions parlé ici, faut y aller, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même le projet le plus banal, en montage parallèle. On voit bien, d'ailleurs, que ce qu'elle vise là, c'est l'écriture série, pour le coup, mais il y a tout, hein. Le viol, le féminicide, voilà, les ateliers d'écriture, les séries télévisées, la fin de la littérature. Enfin, vraiment, vraiment, tous les clichés de l'époque, et effectivement, un peu de bourgeoisie, hein. Les riches qui gagnent leur argent à la sueur de leur front, c'est écrit textuellement. La France qui est considérée comme un État-providence, visiblement, Catherine Cusset n'a pas mis les pieds dans ce pays depuis longtemps. Donc voilà, quand même, vous êtes
le personnage de l'écrivain. Non, mais peut-être que les clichés dont vous parlez sont juste les événements de la vie de beaucoup de femmes.
Oui, mais chez Camille Laurence, il n'y avait pas ce côté.
Oui, mais parce que Camille Laurence avait choisi de le raconter par le verbe, et je trouve, et ça c'est une partie du projet qui me plaît aussi, Catherine Cusset a choisi de le raconter visiblement par le corps, tous les événements qui peuvent arriver à une femme au travers de son corps, aussi bien le viol que la maladie ou que le plaisir.
La définition du bonheur que j'ai trouvée formidable, je vous le dis comme ça, ça vous intéresse
pas
beaucoup.
Mais ça n'intéresse personne ce que tu dis.
C'est chez Gallimard et c'est signé Catherine Cusset. Allez, on termine avec « Ne t'arrête pas de courir ». Un récit de Mathieu Palin aux éditions de l'Iconoclaste. Mathieu Palin, ancien reporter à Libération, à la revue 21, qui a décidé un jour d'écrire pour le rencontrer au parloir de la prison où il purgeait une peine, Toumani Koulibaly, qui a la particularité d'être à la fois sprinter et cambrioleur, c'est-à-dire champion le jour et voyou la nuit. Le prétexte, c'est que Palin et Koulibaly sont issus de la même banlieue sud de Paris. Et ils ont tous les deux exactement 33 ans. Et c'est ainsi que chaque mercredi, l'écrivain s'est rendu au centre pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne, pour tenter de comprendre pourquoi un athlète, qui était quand même champion de France 2015 du 400 mètres, ce que n'est pas Arnaud Vivian, comment cet athlète avait et pourquoi avait ruiné sa carrière prometteuse en allant exactement après chacune de ses victoires cambrioler des boutiques de téléphonie ou des bureaux de tabac. Et comment il faisait
des fois.
Ça, je le sais. C'est pour ça que je l'ai évoqué. Et comment il faisait pour s'entraîner encore derrière les barreaux. Et évidemment, c'est une enquête qui se double du récit d'une amitié assez étonnante entre un homme en liberté, qui est Mathieu Palin, et ce Koulibaly qui est en prison et qui parle de lui d'ailleurs de manière parfois assez dure dans le livre, puisqu'il se dit menteur, manipulateur et sujet à l'autodestruction. Un peu rapidement, vous me dites ce que vous en pensez, Arnaud?
Ça court assez vite, un peu comme le personnage, hein, les phrases courent vite, etc. Des fois, c'est un petit peu quand je lis la ventilation ronronne sous le plafond, ça me fait regretter Bernard Lavilliers, un peu et qui avec le ventilateur qui découpait l'air épais comme du manioc. Mais sinon, voilà. C'est de la bonne narrative non-fiction. La deuxième partie est plus intéressante quand il fait son introspection en se demandant pourquoi il fait ce livre. Ça, c'est plus intéressant et soudainement, on est un peu captivé. Quand il raconte ses autres reportages qui sont effectivement tous sur la même ligne, comme on dit quand on court, si j'ai bien compris, le 400 mètres, il y a des histoires de lignes.
Olivia.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surtout qu'en fait, on n'a pas vraiment la réponse à la question. Pourquoi
non,
ce gars,
tout même de...
il gagne la course, il prend le train, il prend le RER, il arrive chez lui.
Mais lui-même ne l'a pas, Koulibaly.
Il
hein.
pose la médaille sur la table de la cuisine et il repart.
Il va faire un petit braquage.
C'est... Ouais. Alors, peut-être la réponse, il y a une scène très très belle et qui pose les deux questions du livre. D'ailleurs, pourquoi le gars, il n'arrête pas de voler. Et pourquoi Palin est obsédé par cet homme. Et il y a une scène très très belle où il est face à la mère de Toumani. Et elle lui dit, mais pourquoi votre fils? Et en fait, la mère, elle lui dit, il a la main qui vole. Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'on a un talent qu'on est obligé d'aller au bout de ce talent. Et puis après, elle le regarde, elle lui dit, mais ça vous remue tout ça. Hein. Et là, je trouve qu'il se passe quelque chose de très fort, mais... J'aime bien, en fait, qu'il n'épuise pas le sujet, ce livre. C'est ça que j'ai
Mais parce que je pense que Koulibaly lui-même ne sait pas. Dont il raconte d'ailleurs la vie, y compris le voyage en Afrique, dans son pays natal.
Et il a volé aussi.
On a l'impression qu'on est vraiment au parloir avec lui.
Gaieté,
mais sans être un témoin gênant ou un voyeur, sans doute du fait de l'empathie, mais qui est toujours au bon niveau, je trouve.
Puis on sent que Palin, que Mathieu Palin...
Il y a quelque chose vraiment qui... De juste.
Il faudrait absolument que Koulibaly continue à s'entraîner et l'autre, c'est fini quoi.
Il rêve au JO de 2024, hein, Koulibaly.
Alors,
il aura, je sais pas, 36 ans, j'ai regardé, c'est un peu vieux. Non, mais ce type, d'abord, moi, j'ai énormément aimé sur un plan littéraire, j'ai beaucoup aimé le récit, parce que c'est vrai, Olivia, tu parlais d'empathie, mais il trouve la voie juste entre l'empathie et l'impartialité, malgré tout. Il essaye de rester quand même toujours à distance de son sujet. C'est un virtuose, ce mec, quand même. Il s'entraîne.
Virtuose.
Bah oui, parce que il fait évidemment
il de quoi
vas-y, cours le 400 mètres et à la vitesse à laquelle il va, enfin
ah bon,
c'est
d'accord.
Absolument hallucinant. Va voir les vidéos, moi je suis allée voir sur internet. D'abord, il est, alors excuse-moi, je parle de son physique, mais il est beau comme un soleil et le voir courir, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Simplement, on a presque l'impression que ça lui est donné, c'est-à-dire qu'il a pas dû faire forcément énormément d'efforts. Il en fait bien sûr, il s'entraîne, mais au fond c'est presque inné quoi. Il a des jambes mais de gaz, enfin bon. C'est absolument fabuleux. Mais
parfois,
oui.
Il a très mal aussi.
Et il a besoin d'adrénaline. Et il dit que d'ailleurs, à un moment donné, il dit que quand il a les flics aux fesses, ça lui donne autant d'adrénaline que quand il court sur un plus que quand il court sur un stade. Et effectivement, ce type est une énigme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de très timide? C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non? C'est quelqu'un qui. Mais c'est vrai. Quand il fréquente des types qui l'entraînent, il ne sait pas leur dire non. Parce que parfois, il sort pour pas grand-chose. Enfin, il risque de se faire prendre.
Bien sûr. Pour
très peu d'argent, enfin. C'est
jamais des gros braquages.
C'est pas des gros braquages.
Pas la place Vendôme.
Voilà, et je trouve que je sais pas ce qui deviendra, effectivement. Ça pose aussi la question de la prison. Est-ce que la prison sert à quelque chose dans ces cas-là? Mais en même temps, il accepte la prison, il continue à s'entraider d'une manière presque...
Sans se révolter.
Il se révolte pas du tout. Enfin, c'est une énigme, ce garçon.
Alors, il faut expliquer que Mathieu Palin est aussi un sportif.
Oui.
Et dont le père était aussi un sportif. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que la région, il y a aussi ni l'âge, il y a aussi les origines
sportives. Oui, il y a toute une relation miroir qui se construit
Elisabeth.
Entre eux, et c'est un peu amicalement vôtre, quoi, les destinées parallèles de ces deux garçons qui ont le même âge. Non, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de Mathieu Palin, bon, c'est vraiment un très bon auteur de non-fiction, on peut dire que c'est peut-être la relève d'Emmanuel Carrère, il y a énormément de strates dans son livre. C'est à la fois une très bonne peinture du milieu carcéral, mais aussi de ce milieu de l'athlétisme, qui est en fait le parent pauvre du sport professionnel.
Il n'y a pas de fric.
Il n'y a pas de fric, on voit tous ces sportifs qui galèrent. En plus, il y a des stars quand même de ce milieu qui apparaissent dans le livre, notamment Christine Aron, qui à un moment entraîne, hein, si je ne me trompe pas,
Toumaine
Koulibaly. Et on voit qu'il n'y a pas du tout de moyens pour ce sport. Donc c'est, là aussi, il y a donc la peinture de ce milieu.
D'ailleurs, ils volent pour se payer des billets d'avion.
Exactement, pour pouvoir aller s'entraîner. C'est complètement fou. Et ce que j'ai été aussi très sensible à la façon dont ça aurait pu paraître un peu artificiel, le fait que lui-même, Palin, se mette en scène. Et je trouve qu'en fait, ce qu'il met en scène de façon la plus intelligente, c'est sa réflexion sur qu'est-ce que je fais de cette histoire, pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire et qu'est-ce que j'en fais. Il dit, moi j'aimerais qu'elle se termine bien, évidemment, mais et qu'est-ce que je fais de ce personnage qui me donne tant de lui? Est-ce que je vais pas finir par le trahir, comme ça arrive très souvent et comme ça avait été théorisé par Janet Malcolm dans le journaliste et l'assassin? Et Palin, il a cette sensibilité qui fait que il est toujours à la bonne distance, effectivement, de son sujet, et ça, j'ai trouvé que c'était très appréciable.
C'est donc Ne t'arrête pas de courir, c'est signé Mathieu Palin. Et c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Voici venu le moment des conseils. On va commencer avec Elisabeth.
Oui, alors moi je voudrais recommander un livre qui est paru en 1963 et qui n'avait jamais été traduit en français. C'est un livre signé du journaliste américain William Gardner Smith et ça s'appelle Le visage de Pierre. Ça paraît aux éditions Bourgois et c'est traduit par Brice Mathieusson. Et c'est en fait la France pendant la guerre d'Algérie vue par un journaliste africain-américain qui, en arrivant à Paris, pense trouver un pays débarrassé de racisme. Là, il n'y a aucun policier qui vient le contrôler. Il peut mener une vie tout à fait libre. Jusqu'à ce qu'il découvre la façon dont les Algériens sont traités par la police en France. Et donc, il va décrire tout ça, et ça va jusqu'à la manifestation du 17 octobre 1961. C'est un livre formidable, c'est digne de James Baldwin pour moi. C'est d'une modernité incroyable dans la façon dont il parle du racisme, mais aussi des rapports hommes-femmes. Et évidemment, ça résonne très particulièrement aujourd'hui.
C'est le moment où jamais il faut
les
le lire.
60 ans de la manifestation du 17 octobre.
Tu redonnes le titre.
Le visage de Pierre, de William Gardner Smith, chez Bourgois, traduit par Brice Mathieu.
Merci Elisabeth. Patricia.
Alors, je suis désolée, je vais être un peu redondante, mais Arnaud en avait parlé fin août, je crois, au masque. C'était Mon mari de Ventura, l'iconoclaste.
Qu'on a tous aimé. Bon,
oui. Que vous avez aimé. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être restée folle de son mari après 15 ans de vie commune quand tout est au carré, y compris la façon dont on fait son lit? Elle est obsessionnellement amoureuse, cette fille. On va pas raconter les péripéties. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Ventura, c'est une fille très jeune. Elle a pas 30 ans. Et elle s'appuie, en fait, c'est une fille qui a fait Normal Sup, qui a fait HEC, elle s'en cache pas, qui est ultra diplômée, mais c'est son sujet, l'amour. Et à mon avis, ce n'est qu'un début, ce n'est que le premier livre sur l'amour qu'elle va écrire, parce que c'est sûr qu'elle va creuser plus loin, et je trouve ça très réussi.
J'ose pas dire, retenez bien son nom, hein, mais enfin, en tout cas, c'est Maud Ventura, et c'est aux éditions...
À l'Iconoclaste.
Aux excellentes éditions de l'Iconoclaste. Mon conseil, c'est un petit livre tout petit qui s'appelle Souvenir, au pluriel, de ma vie d'hôtel, c'est chez Fayard, et c'est signé Jacques Fieschi, le scénariste notamment, hein, de Piala, de Sautet, d'Anne Fontaine, et bientôt, dans quelques jours, des Illusions perdues de Xavier Giannoli. Et c'est un bref, très touchant récit d'apprentissage dans la France pompidolienne, qu'aimait bien d'ailleurs Sautet. C'est une éducation amoureuse aussi pour un jeune homosexuel. Et c'est un trio, une fille de garçon, qui peut rappeler celui de Jules et Jim. C'est donc Souvenir de ma vie d'hôtel, c'est Jacques Fieschi et c'est chez Fayard. Le conseil d'Olivia.
Un livre hybride, hein, que je ne saurais qualifier, mais qui m'a transportée, qui a un très beau titre, Les nuits d'amour sont transparentes. C'est un titre emprunté à Shakespeare, c'est un livre de Denis Podalydès, qui raconte les répétitions de la Nuit des Rois, sous la direction de Thomas Ostermeyer. Et c'est, au départ, c'était un journal de répétition, et puis ça devient complètement autre chose. C'est un livre sublime sur Shakespeare, c'est un livre sur ce que c'est que de jouer, et puis tout d'un coup se glissent des moments très personnels, et notamment sur ses frères, le frère avec qui il met en scène les films, mais aussi le frère Eric qui s'est suicidé, et il y a une page sur le suicide de son frère qui est juste admirable. Tout est beau dans ce livre. C'est shakespearien. C'est au seuil dans la collection de Maurice Hollander.
Par ailleurs, a écrit d'autres livres sur son métier qui étaient très réussis.
Vraiment, mais c'est un vrai auteur. Hein.
Arnaud, pour finir.
Un meurtre a été commis rue Malebranche de Judith Broust aux éditions Exil. Ce titre est magnifique. Un meurtre a été commis rue Malebranche. C'est un alexandrin d'ailleurs. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient à Paris, qui est hantée parce que sa cousine est venue à Paris 10 ans plus tôt et elle a été retrouvée assassinée dans une chambre de bonne rue Malebranche, d'où le titre. Et donc elle vit à la Contrescarpe. Elle a eu une enfance dure. Elle a été battue par son père. Elle vit à la Contrescarpe. On est à la fin des années 60. Elle rencontre Guy Debord et surtout elle se fait analyser par Jacques Lacan qui est à la fin de sa vie, hein, c'est un Jacques Lacan crépusculaire mais formidable, très tendre comme elle le raconte, et puis elle raconte aussi les difficultés de sa vie de femme. Elle va subir un avortement à l'époque où c'est clandestin. J'adore les scènes d'avortement dans les livres, hein, il n'y a pas que les accouchements, et donc et par ailleurs elle raconte dans une page
tout ce qui nous sépare,
tout dans une page absolument saisissante, je vous assure, la manière dont elle a été violée en Crète. On pourrait dire que c'est horrible ce livre, mais alors pas du tout. C'est d'une poésie, d'une
magie. On termine vraiment très bien l'émission.
Un meurtre a été commis rue Malebranche de Judith Broust aux éditions Exil.
Tous ces conseils, même celui d'Arnaud, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Elisabeth Philippe, Patricia Martin, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Julie Garraud, Romain Lenoir ainsi que Titouan Oex, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 21 octobre. Je vous attends à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.